Et hop là.
Ça s'appelle entendre ta voix.
Non mais oui, oui c'est pas la voix que tu as.
Eh ben c'est parti, ça enregistre.
Ah. Eh ben bonsoir, vous êtes sur Radio Pulse. Ce soir, on va parler de Kiki, de Kékette et de plein de choses bizarres. On va s'intéresser au sujet des trans. Qu'est-ce que je peux dire? Un ou deux trigger warning, disclaimer, attention tout ça pour débuter. Je vais essayer de m'adresser à tout le monde. Les gens qui s'en foutent, les gens qui sont très pro-trans, les gens qui sont très anti-trans. Si d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, ça vous est insupportable, vous n'êtes pas obligé d'écouter, je vous rappelle, hein, y a d'autres radios, dans une heure vous revenez, on n'est plus là. Hein.
Mais le but c'est aussi d'ouvrir les esprits.
On va essayer de se poser des questions a priori basiques, peut-être très bêtes, et creuser un peu le sujet, voir de quoi ça parle et de quoi qu'on cause. Qu'est-ce que je voulais dire à toi aussi, Séverine?
À moi aussi. on fait pas de politique, on veut juste parler, voilà, de droits humains avant tout, voilà, de gens et d'amour, tout simplement. Et ben c'est parti.
Eh ben c'est parti.
On va présenter les gens qui sont autour de cette table. Nati, on t'écoute. Qui es-tu, Nati?
Moi, c'est Nati. Je suis coprésidente de l'association Ornanciel depuis l'année dernière. Mais ça fait 4 ans, un peu plus, que je suis dans l'association et que je défends les droits LGBTQIA+ dans l'Orne.
Ok. Léontine.
Alors, moi, c'est Léontine. Je suis la deuxième co-présidente, donc avec Nati de Ornanciel, qui est la seule association de défense des droits des personnes LGBT dans l'Orne. Voilà. Donc, on représente l'association ce soir autour de cette table.
Et c'est bien la seule association de l'Orne, du coup. Vous n'êtes pas énormément représentée dans l'Orne.
Non, oui. On est la seule asso LGBT de l'Orne. Ouais. Voilà.
En face de vous, du coup, nous avons Peggy. Qui es-tu, Peggy?
Bah, je suis Peggy. Après, quoi dire de plus, voilà.
Parle-nous un petit peu de ton parcours, de pourquoi tu es là aussi.
Ah, pourquoi je suis là? Alors, je pense que, enfin...
Dis pas juste parce que c'est parce que je t'ai invitée. Hein.
Bah, un petit peu.
J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. C'est ça.
Non, bah après, je pense que je... Enfin, je suis pas habituée de parler à la radio, donc puis je suis pas quelqu'un de très oral, on va dire, pas verbal. Donc c'est juste que je suis avec ma compagne depuis plus de 16 ans et que c'est juste pour apporter mon petit point de vue sur tout ça, quoi. Voilà.
C'est plutôt une bonne raison.
Voilà.
Pour toi, du coup.
Oui, le point de vue d'une quarantenaire, voilà.
Et à côté, nous avons Rebecca.
Bonjour, et du coup moi c'est Rebecca Valmire, je suis tatoueuse sur le Mans. Ça fait du coup 3 ans que je suis que j'ai fait mon coming out trans, donc trans femme. J'ai 41 ans. Et puis voilà pour un début quoi.
Et enchantée. Et Peggy et du coup Rebecca, vous nous avez pas dit, vous êtes pas d'Alençon vous deux?
Non.
Alors, vous êtes d'où?
Des intruses.
Moi, je suis de Rouen.
Et moi, du Mans.
Ok, donc elles ont fait de la route quand même pour prendre le micro aux ondes de Radio Pulse. Et à côté de moi, j'ai Rico. Présente-toi, Rico.
Bonsoir, moi, c'est Eric. Eric le connard pour ce soir. Voilà, donc je suis allé à la pêche aux questions de connard. J'ai envie de mettre les pieds dedans quand même. sur des forums, il y a des gens qui posent des questions plus ou moins drôles, plus ou moins de très mauvais goût, plus ou moins bizarres. Et qui peuvent amener des réponses qui m'ont semblé néanmoins intéressantes, on verra. Donc je vous propose de vous poser des questions. Si ça vous inspire pas, vous répondez pas. Si ça vous inspire, vous avez la libre parole. Vous êtes parti pour ce petit jeu ou...
Très bien.
Eh ben c'est parti.
Allons-y.
Alors ma première question, on va mettre les doigts dans le trou direct ou presque à côté. Que devient le kiki d'un homme trans? Est-ce qu'on le met dans un bocal? Est-ce qu'il est greffé au... Non, d'une femme trans, je crois que c'est dans ce cas-là. Un homme qui devient femme. Est-ce qu'on le greffe à un homme trans, à une femme qui devient homme? Et un peu plus sérieusement, comment ça se passe la chirurgie quand elle a lieu?
Oui, bah, je comprends bien que ça te perturbe beaucoup parce que on sent le besoin d'en discuter. bon, alors, si on sort un petit peu, si on élève un petit peu son cerveau et qu'on ne le laisse pas dans son slibard, donc on peut effectivement faire des opérations de réassignation de genre dans un sens comme dans l'autre, donc soit une vaginoplastie, soit une phalloplastie. Mais c'est pas obligatoire, donc rien n'est en soi obligatoire. On reste maître dans notre propre corps, logiquement, jusqu'à quand on ne sait pas. Qu'est-ce qui est souhaité finalement, quelle est la question si ce n'est que ces chirurgies, elles sont possibles. Que voulez-vous de plus comme détail?
Mais ouais, mais en fait, du coup.
Ça fait mal.
Ça fait mal.
Bah, c'est de la chirurgie. Donc
mais oui, ça fait mal.
Ça fait mal. Ou femelle. Hein.
Si tu essaies dans ta cuisine, tu auras mal.
Mais par contre, ce qui est important de soulever, c'est qu'en définitive, c'est quand même une minorité de personnes trans qui passent à la chirurgie.
En tout cas, c'est pas. On peut faire un parcours de transition sans faire une réassignation du coup des parties génitales. Quoi.
Voilà, et ça, je pense que c'est ça. Je pense que beaucoup de personnes l'ignorent en fait.
Si je peux me permettre, la question de la transidentité, c'est pas juste de savoir ce que t'as entre les jambes. Ça, c'est une question assez secondaire. C'est plutôt une question sur le genre. C'est comment on se sent, comment on se vit, et la question de ton appareil génital n'est pas essentielle pour vivre une. Si on se promène dans la rue, je veux dire, globalement, les gens sont plutôt habillés. Et la grande majorité des gens qu'on croise dans la rue, on ne verra jamais leur appareil génital. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin de voir l'appareil génital de quelqu'un pour savoir, pour interagir avec cette personne ou pour savoir s'il faut interagir avec un homme ou avec une femme ou peu importe, en fait, de ce que tu as dans le slip. Ça ne regarde que la personne qui porte le slip. Voilà.
Mais complètement. Et par contre, tout à l'heure, on a... d'aborder un sujet aussi parce que donc Léontine et Nati interviennent aussi auprès des adolescents tu nous parlais d'une expérience d'une personne en boîte de nuit qui du coup avait...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lycéens. Nati, tu interviens quand tu veux. Il y a beaucoup de lycéens, donc on intervient au nom de l'association avec un agrément spécifique dans les lycées et les collèges pour sensibiliser les jeunes à l'homophobie, voilà, et au LGBT-phobie de manière générale. Et une question qui revient et qui, souvent, tout le temps même, et qui inquiète énormément les jeunes hommes, donc les jeunes adolescents, c'est « Oh là là, mais si je rencontre une meuf, elle est trop bonne en boîte de nuit, et puis qu'après, on se chauffe et hop, on veut aller passer, faire des galipettes, et on se retrouve tout nu, et mon Dieu, elle a une bite, ah, quelle horreur !» C'est genre leur angoisse absolue. Et c'est bon, une angoisse un peu stupide, parce que de toute façon, tu te retrouves nu avec quelqu'un et tu n'as pas envie d'aller plus loin, tu remets ton slip et tu t'en vas. Ça s'appelle le consentement. Et même si tu te retrouves avec une personne qui t'attire et tout à coup, cette personne a un pénis, c'est pas grave. Tu peux aussi essayer des nouvelles choses et élargir ton horizon. voilà, tu peux te faire du bien d'une autre façon. Et toujours, sans obligation, personne... si par contre, la personne qui a un pénis... t'oblige à avoir un rapport sexuel, ça s'appelle un viol. Mais ce genre de situation, ça c'est légalement... Peu importe qui viole qui, enfin, je veux dire... Voilà. Donc,
ça n'a pas de rapport.
Il n'y a pas de rapport avec la question. Et donc, simplement, si t'es pas content, bah, tu te rhabilles et tu pars, c'est pas grave.
Et après, si c'est un problème de validation vis-à-vis des copains, bon, bah là, ça en dit long sur la personne, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est ça, si ta masculinité, elle est fragile au point que tu te sens menacée parce que tu risques peut-être de te retrouver dans le cas sur 1 million où tu te retrouverais avec une femme qui aurait un pénis et que tout à coup, tu ne te sens plus homme et ta virilité, elle est fracassée, c'est peut-être un problème avec ta virilité. Voilà.
Alors que lorsqu'il s'agit de football, il y a moins de soucis apparemment dans les vestiaires.
Voilà. C'est ça. Rico, alors ?
Très bien, on a des réponses déjà. Est-ce que je vous propose une seconde question ou est-ce que vous voulez développer encore un peu?
Ça dépend, les plus trash ou les moins trash.
Il hésite à la poser.
Non, j'hésite à choisir la question. Oui, il y a cette histoire d'âge là, puisqu'on parle de transition. Quel âge de la société devrait-elle choisir pour une transition? Les deux remarques que j'ai pu lire, c'est trop tôt, c'est l'affaire sur un corps qui n'est pas fini, puisqu'on parlait de transition chirurgicale, physique. Peut-être que le chirurgien a besoin d'un peu de matériaux pour travailler. D'un autre côté, si on l'a fait trop tard, peut-être qu'il y a des gamins qui vont souffrir pendant longtemps en attendant de pouvoir être bien dans leur corps. Pas évident de trancher entre ces deux extrêmes.
Non, en fait, c'est plutôt finalement c'est plutôt assez simple parce que ça veut dire quoi? Enfin, justement, le début de ta question, c'était alors que le corps n'a pas fini de se développer, c'était quelque chose comme ça. Et justement, c'est tout le but. C'est tout le but, c'est-à-dire que si on développe des caractéristiques genrées dans un genre qui nous rend mal à l'aise, qui nous met pas bien, c'est quoi l'intérêt de continuer? Alors que s'il y a des, possibilités de ne serait-ce que bloquer cette puberté, et les bloqueurs d'hormones existent depuis longtemps pour des assignations sur des personnes cisgenres, donc en fait, non, c'est-à-dire que dès que c'est possible de le faire, autant que la personne le fasse, et c'est chacun son corps en fait.
C'est ce que tu expliquais tout à l'heure en fait, c'est que par rapport à un garçon qui est en pleine puberté, et si justement il a un fort taux de testostérone et qui développe justement toutes les caractéristiques beaucoup plus masculines, comme des épaules larges comme tu le disais, et qu'il est lui dans une dimension où il se sent dans un corps de femme avec une identité de femme, automatiquement ce sera beaucoup plus compliqué pour lui. C'est ce que tu expliquais, que s'il n'a pas accès à ces traitements-là, en fait.
Bah bien sûr, parce que ça voudra dire, par exemple, au niveau du visage, si cette personne née homme est une personne transfemme, toute la musculature de la mâchoire, donc ça pourra être contrecarré avec les hormones qui sont prises derrière, type oestrogène. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de osseux, ça va être compliqué à déconstruire. En gros, là, c'est de la chirurgie. Donc, pourquoi attendre pour faire plus de chirurgie après? Ça n'a pas de sens.
Ouais, complètement.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que avant de commencer un traitement hormonal, en France, on donne des bloqueurs de puberté qui sont simplement des molécules qui bloquent la puberté, comme le nom l'indique. Et à partir du moment où on arrête de les prendre, la puberté reprend, comme si elle n'avait pas été bloquée. Et en fait, on peut prescrire des bloqueurs de puberté dès 10-12 ans. Et en France, de toute façon, il n'y a pas de traitement hormonal avant 16 ans. Voilà. Et un traitement hormonal, c'est simplement prendre les hormones. Si on fait une transition vers la femme, prendre l'œstrogène, et une transition vers masculin, c'est de la testostérone.
Voilà. Mais je vais rebondir dessus au niveau des âges et tout ça. On voit bien que c'est effectivement très sociétal, parce que à côté de ça, le fait que la majorité sexuelle elle soit à 15 ans, ça pose de problème à personne. À Gérard non plus, apparemment.
Ouais.
Et en plus de ça, je me permets d'intervenir là-dessus. J'ai un exemple qui va prendre la chose un peu à l'envers. J'ai un pote, cis, mec, hétéro, tout ce qu'il y a de plus basique, qui, à l'adolescence, a développé de la poitrine. Vous imaginez pas combien il en a subi les conséquences toute sa jeunesse, toute sa puberté. Et dès qu'il a eu l'autorisation de pouvoir prendre des bloqueurs là-dessus, de pouvoir prendre des médicaments qui lui permettaient de ne plus avoir cette poitrine-là, il a foncé dedans, parce que c'était vraiment une souffrance pour lui tout du long.
Et de toute façon, tous ces traitements hormonaux médicaux, ils n'ont pas été faits pour nous, pour les trans. Ils ont été faits en premier lieu pour des personnes cisgenres, et donc nous, derrière, on réutilise ces produits-là pour arriver à faire des transitions. Mais très sincèrement, les médecins, on n'était pas leur objectif. Hein.
Ouais. Et même encore aujourd'hui, je sais que c'est toujours pas l'objectif des médecins, et que juste les fabricants d'hormones injectables ou en patch fabriquent un surplus, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des prescriptions, et donc en fait qu'ils le prennent sans prescription. C'est pas forcément le cas en France, mais dans d'autres pays, il faut se débrouiller. Et donc, on fabrique un surplus par rapport aux prescriptions. Parce que justement, les personnes trans ne sont pas du tout les cibles de ces médicaments. Et donc, elles mangent les restes, quoi, en quelque sorte. Et moi, je voulais juste reprendre, parce qu'on utilise des termes un petit peu, peut-être un peu techniques, qui ne sont peut-être pas compris par tout le monde. On parle de personnes trans et de personnes cis, transgenres et cisgenres. Donc, les personnes trans, c'est justement les personnes qui vont changer de genre au cours de leur vie, et alors que les personnes cis, c'est les personnes la grande majorité des personnes, c'est-à-dire qui ont un appareil génital qui correspond à leur genre. Voilà, dans la société dans laquelle on vit, classiquement, et dans l'écrasante majorité des cas, si tu nais avec une vulve, tu te sentiras et tu ressentiras ton genre comme étant le genre femme, féminin. Si tu nais avec un pénis, dans l'immense majorité des cas, tu ressentiras ton genre masculin et tu te vivras en tant qu'homme. Et il n'y aura jamais de questions là-dessus. Et dans quelques cas, on a fait un calcul, donc en France, ça correspond à 0,09% de la population. Il y a des personnes, justement, qui se retrouvent confrontées à une dysphorie, ça s'appelle, c'est-à-dire que leur appareil génital et leur apparence physique ne correspondent pas à la manière dont ces personnes se ressentent, voilà, et se vivent.
Est-ce que tu sais s'il y a des études médicales qui ont été menées par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui aurait pu occasionner ça pendant la grossesse ou je sais pas, je pose cette question, on parlait avec justement une femme à la marche des fiertés et elle a compris en fait qu'elle n'était pas dans le bon corps dès toute petite, genre elle avait 3 ans et demi, 4 ans.
Bah, faut savoir que en France, il y a des statistiques qui sont faites et on sait que une dysphorie peut se diagnostiquer. Alors la dysphorie, c'est l'impression de ne pas être dans le bon corps et même de savoir qu'on n'est pas dans le bon corps, si on peut exprimer ça comme ça, dès 4 ans. C'est-à-dire que dès 4 ans, il y a des individus, des personnes qui sont dysphoriques et qui se rendent compte que c'est pas dans mon corps. Et alors, quant à savoir la cause de la transidentité, ça c'est la grande question, c'est comme la cause de l'homosexualité, on sait pas, il y a des recherches, voilà.
Sauf qu'on s'aperçoit que ce qui était supposé pas être naturel, on le découvre quand même dans les sociétés animales, enfin, oui. On le découvre en biologie, donc bon, c'est-à-dire que...
Ah oui, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Il y a un moment, j'avais lu tout un super livre là-dessus qui n'avait aucun sens, comme quoi, suivant où était placée ta phalange de ton petit doigt du bras gauche, t'étais une personne homosexuelle, ou alors après, c'était en fonction de tes cheveux, comment ils partaient.
Alors qu'on sait tous que c'est de quel côté tu mets ta boucle d'oreille.
Ah bah oui, évidemment. On le savait depuis le départ.
La bague au pouce aussi. La bague au pouce.
Je peux dire un petit truc.
Vas-y, Peggy.
Alors, je ne sais pas s'il existe des études médicales, etc., mais je peux juste témoigner de quelque chose. C'est ma compagne. Et je pense que ça... Enfin, elle, en tout cas, ça s'est passé bien avant qu'elle naisse. Parce que, en fait, les médecins, quand sa maman était enceinte, étaient persuadés que c'était un garçon. Et en fait, quand elle a accouché, oh putain, c'est une fille. Et ils étaient. Ma compagne, je pense depuis, même quand elle était dans le ventre de sa maman, et son discours, c'est mais je. Enfin, pour moi, j'étais un garçon. Enfin. Et du coup, même maintenant, alors, pourtant, elle assume son. Enfin, pour elle, c'est une. Enfin, c'est assez compliqué parce que. Elle aime être une femme, mais elle n'aime pas ses attributs féminins. Mais par contre, elle ne supporte pas, par exemple, quand on est au resto, « Ah, monsieur, madame !»« Oh putain, il m'a appelé mon grand monsieur !» Et du coup, c'est tellement complexe. Mais en même temps, dans son cas, elle, c'était pendant la grossesse, quoi. Enfin, même peut-être, je sais pas, peut-être même le désir de la maman, j'en sais rien, parce qu'elle voulait un garçon. Enfin, des fois, est-ce que ça s'explique médicalement ? Il n'y a pas d'explication, en fait. C'est juste, c'est comme ça. Ouais,
c'est la nature.
C'est la nature.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et l'argument d'autorité, c'est la nature, ça suffit comme explication. Et dès que quelque chose dérive un peu de cette vision un peu pauvre qu'on a de c'est la nature, là, tout à coup, il faut des explications parce que ça ne va pas, c'est pas la nature. Mais en fait, être homo ou être hétéro ou être trans, c'est tout autant la nature. Quelqu'un qui se sent en dysphorie, la dysphorie ne sort pas nulle part, c'est la nature. Ou l'homosexualité, c'est la nature, c'est des sentiments humains, des ressentis humains qui sont la nature, voilà. Et donc la nature, dans un cas, il faut l'expliquer, dans l'autre cas, il faut pas, c'est bizarre, voilà, il y a une petite différence là-dessus.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'empresse, les personnes intersexes, de les mutiler à la naissance pour qu'elles correspondent au cadre entre guillemets de la nature qu'on aimerait bien donner à la nature, quoi, hein. Jésus-Christ a dit
Et pour juste clarifier, parce que moi je fais mon travail d'asso LGBT là, les personnes intersexes, c'est des personnes qui, à la naissance, le bébé, quand on le voit nu à la naissance, comme tous les bébés, on n'arrive pas, en se basant sur son appareil génital externe, à savoir clairement si c'est un homme, un garçon ou une fille, parce qu'en fait, pendant la grossesse ou avant, il y a une anomalie dans le développement de l'appareil génital. Donc en fait, c'est des bébés qui naissent et on ne sait pas dire, parce qu'ils ont un appareil génital qui ne ressemble pas à ce qu'on est habitué à voir. Et donc, justement, pendant très longtemps, comme c'était pas tolérable, parce que c'était contre nature, alors que c'était des bébés nés absolument naturellement, eh ben, on les charcutait pour leur fabriquer un joli appareil génital comme il faut, genre dans la nature, sauf qu'on l'a fabriqué avec un bistouri, donc c'est plus trop la... Mais bon, c'était quand même la nature, donc voilà.
Mais peut-être que Rico sera intéressé de savoir où est-ce que finit ses pénis, le prépuce ou on ne sait quoi, puisque ça avait l'air de le passionner.
Ouais. Ah, ça aussi, le mystère de la disparition des prépuces, c'est très intriguant, j'avoue. Et il y en a beaucoup des prépuces qui disparaissent sur cette planète, hein.
Je pense qu'il finissait à la poubelle, je suis désolée Rico, mais...
Mais non, on va ouvrir un musée, ça va être super.
Ouais, si tu veux les sécher, ça peut faire que les coquillettes. Hein.
C'était pas vegan comme blague.
Non, pas trop, désolée pour les vegans.
Donc ouais, j'ai envie de rebondir un peu, vous parliez de traitements hormonaux. Les traitements hormonaux, quand ils sont pris sur le long terme... pour ce que j'en sais, ça induit beaucoup de problèmes, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers. Et du coup, ça pose la question du rapport bénéfice-risque de tout ça, de les prendre avec tous ces effets secondaires qui sont lourds.
T'as pensé arrêter la clope ?
Versus pas les prendre.
Et ouais, c'est vrai.
Le bénéfice en contrepartie doit être conséquent quand même pour que vous acceptiez.
Alors,
ces inconvénients.
On peut faire une comparaison avec tous les médicaments pour la psychiatrie, tous les médicaments que prennent les personnes en grosse dépression ou qui sont schizophrènes ou peu importe, bipolaires. C'est des médicaments qui, effectivement, eux aussi, ou même les personnes qui sont simplement, je ne sais pas, qui ont des problèmes de thyroïde. Enfin, il y a plein de médicaments de chimie qu'on mange parce qu'on a une condition physique qui fait qu'on a besoin d'aide chimique, on va dire. Tous ces médicaments ont des effets à long terme, tous. Et c'est-à-dire que, encore une fois, on ne se pose la question que pour les traitements hormonaux, et on s'en fiche en fait que les médicaments que prennent les gens dépressifs ou peu importe, les gens qui sont bipolaires, je ne sais pas, eux, ils ont aussi des effets secondaires, mais ce n'est pas grave. En fait, il faut, parce que sinon,
Si je peux, excuse-moi, mais on est toujours dans cette même démarche de « c'est pas naturel, c'est dangereux, c'est machin ». Là, je te parlais juste avant, je suis arrivé, tu fumais. Je veux dire, si à un moment donné, il faut se poser la question de « est-ce que les hormones, elles vont me donner une espérance de vie moins longue que si j'en prenais pas ?» Moi, je te dis, ta clope, elle va faire que tu vas avoir une espérance de vie moins longue. Donc en fait, fous-moi la paix, je te fous la paix, quoi.
C'est parfait.
On parle d'espérance de vie, et quelque chose qui n'est pas très drôle, mais c'est-à-dire que si on prend les statistiques chez les moins de 25 ans, en France, des statistiques françaises, si on prend toutes les tentatives de suicide chez les personnes de moins de 25 ans, si on, en fait, ensuite on classe un peu, on constate que chez les personnes trans, chez les jeunes trans de moins de 25 ans, il y a 6 fois plus de tentatives de suicide que la moyenne nationale. Donc en fait... ces jeunes personnes tentent de se suicider 6 fois plus que la moyenne nationale. Donc, en fait, leur espérance de vie, elle n'est pas longue, en fait, parce que y a tous ceux qui ne se ratent pas. Donc, ils n'ont pas fait des tentatives, ils ont fait des suicides. Et ceux-là, on ne les compte pas. Et c'est-à-dire que si manger des pilules ou t'injecter des choses, ça permet déjà rien que là, ça augmente ton espérance de vie parce que ça augmente juste ton bien-être. Bon, tu auras des effets secondaires. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui génèrent des effets secondaires, mais ton espérance de vie, de toute façon, est augmentée par cette aide.
Et là, tu calcules vite.
Je te rejoins complètement, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, moi, j'ai fait un coming out il y a 3 ans, et je suis extrêmement heureuse de tout ce que ça a pu m'apporter, les hormones, du développement qu'elles m'ont permis d'avoir. Et ouais, peut-être que ça peut réduire mon espérance de vie, mais j'ai tellement gagné en bien-être que peut-être que tout cet effet aussi placebo de bien-être fait que ça l'augmente aussi. Donc finalement, comment quantifier, comment mesurer ça ? Donc je pense que tout ça, c'est franchement, c'est de la fausse question, quoi. C'est vraiment histoire de... Allez, encore nous emmerder, hein.
Ouais, c'est ça. Parce que les personnes trans, c'est un peu la communauté à la mode sur laquelle on peut taper en ce moment, parce que, voilà, ben... Toutes ces questions, c'est lié à ça.
Il
ouais.
y a aussi des gens qui prennent des hormones et on les emmerde pas, ou pas trop. De temps en temps, ils se font gauler, mais les sportifs. Hein. ouais. Parce que ouais, la testostérone, on en parle. Parce que globalement, il s'agit de la même chose. Hein. Ouais.
On avait une petite conversation aussi. Je repense toujours à cette dame à la marche des fiertés qui m'a beaucoup touchée, qui nous disait qu'elle, elle a fait du coup sa transition, tout son parcours il y a plus de 20 ans. Et elle nous disait que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple il y a 20 ans, que les professionnels médicaux étaient mieux formés il y a 20 ans, que la jeunesse actuelle était quand même livrée à elle-même. Quel quel positionnement vous avez, vous, par rapport à ça ?
Non, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que moi, j'ai eu la chance, après, j'ai pris le temps de rechercher, j'ai fait deux chirurgies, une au niveau du front, qui permettait de réduire les arcades sourcilières, qui est un trait masculin, donc le fait de les réduire, du coup, féminise mon visage, et j'ai fait une mammoplastie. Bon, les mammoplasties, il n'y a pas que les femmes trans qu'on font, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt, on sait exactement quoi faire, comment faire. Hein. Je suis tombé sur des professionnels extraordinaires, très, très safe, très justement dans l'attention de l'autre et avec un questionnement sur les transidentités qui était poussé. Je pense que ce qui est plus compliqué, c'est surtout que toute cette médiatisation-là font que on est identifié peut-être plus rapidement parmi des gens que ça dérange, et comme du coup ils nous ont dans le collimateur, c'est plus complexe à vivre au quotidien, parce que effectivement se fondre entre guillemets dans le paysage, bah c'est quelque chose que les personnes trans beaucoup ont quelque part souhaité, en fait pour qu'on nous embête pas. Que les choses soient plus simples avant, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, on a acquis quand même, la médecine a évolué, et nous, nos alliés chez les médecins, on en a de plus en plus aussi, et merci à vous. Et donc, aussi avec cette compréhension que personne trans, on n'est pas là pour faire un parcours où on commence au point A et on veut absolument finir au point B. Non, en fait... y a telle multitude de couleurs et de choses qui peuvent être. C'est ça aussi d'être trans, parce que sinon, en fait, si on refait une réassignation complète, mais on est homme ou femme. On n'est plus trans, finalement. Puisque la transition, c'est un parcours, mais en fait, on peut rester dans ce parcours, on peut se rester à l'étape que l'on souhaite. Il n'y a pas de règle, quoi. C'est aussi un peu tout l'intérêt.
Mais du coup, toi t'as été très bien encadré et t'es tombé sur des bons professionnels, du coup.
Ouais.
C'est cool.
Et okay. Je pense que la personne que t'as interviewée dans la rue... est tombé sur de très bonnes personnes aussi, parce que on avance un peu petit à petit là-dessus, mais à l'époque, comme tu dis, c'était pas encore jusque-là non plus. Il y avait des personnes bienveillantes, bien évidemment, ouais. Dans le cadre médical, fallait tomber dessus.
Ouais.
La personne a eu beaucoup de chance, je pense, de tomber dessus, et même encore maintenant, les personnes ont de la chance de tomber dessus là-dessus, parce que c'est pas du tout encore totalement accepté et pris avec véhémence dedans.
Évidemment.
Rico, t'as une question là qui chatouille, il est là, ouais, je te vois avec ton petit calepin depuis tout à l'heure.
Ouais, puis une question que j'ai croisée qui me chatouille un peu là, c'est une remarque sur le fait que les féministes cherchent à atténuer, voire à faire disparaître les stéréotypes de genre. Les trans semblent les renforcer, est-ce que c'est pas contradictoire ? Qu'avez-vous à dire sur ce genre de question ?
Les trans que vous voyez... et donc qui joue peut-être un peu des codes du genre pour se faire voir dans une démarche militante ou une démarche d'expression personnelle, oui, on peut dire qu'il ou elle joue avec les codes du genre. Par contre, il y a toutes les personnes trans que vous ne voyez pas, parce que précisément, elles se coulent dans le moule et ne jouent pas du tout avec les expressions de genre. Et il ne faut pas confondre les personnes trans avec les drag queens, qui, elles, surexpriment dans un but artistique, certains stéréotypes de genre. Voilà. Or, les trans et les drag queens, ça n'a strictement rien à voir. Mais une femme trans ressemblera à une femme, bon, et un homme trans ressemblera à un homme, et chacun définit féminité et masculinité comme il ou elle le souhaite.
Moi, juste avant, juste avant d'entamer ma transition, j'ai aussi un petit peu exploré et pendant un an j'ai été drag queen. Donc effectivement, quand on est drag queen, donc c'est surtout de la performance puisque c'est des performances artistiques, mais ça permet aussi de prendre une apparence féminine, notamment grâce au maquillage qui est complexe mais qui permet de nous projeter. Et donc effectivement, il y a, mais c'est pas une chose forcément qui se suit, mais on peut tester en étant drag queen et puis finalement se dire, ah, tiens, finalement, non, c'est vraiment tous les jours que moi j'ai envie et je suis prête à affronter le monde extérieur parce que c'est un combat, hein, surtout à l'heure actuelle. Et que les hormones, elles vont mettre du temps à développer notre corps, donc effectivement on va être dans cet entre-deux, on est très vulnérable par rapport aux gens de la société. Mais donc le fait d'avoir navigué un petit peu dans les sphères drag queen peut nous permettre, pour certaines d'entre nous, à franchir le cap de notre transidentité et à aller au-delà. Mais donc voilà. Et ce qui se passe aussi quand on est une personne trans, c'est qu'on vit une deuxième adolescence, parce qu'on a l'adolescence comme tout le monde, et on voit bien que quand on est adolescent, on teste des choses. Et là, effectivement, on a beau être plus âgé, on a aussi quelque part cette euphorie et ce besoin de tester des choses. On ne vous le reproche pas quand vous êtes ado, bah, en fait, ne nous le reprochez pas, même si on a 37 ans, quoi. Hein, peu importe, finalement.
Rebecca, toi, quand tu as vraiment affirmé ce changement d'apparence, est-ce que tu as vraiment ressenti cette différence entre le fait de ressembler à un homme ou le fait de ressembler à une femme dans la rue, des choses qu'en tant que femme, qui sont un peu galères à vivre? Toi, tu les as vécues, là, du coup, maintenant?
Oui, évidemment. Et puis, en fait, quand on est une personne trans, le plus dur, c'est finalement au début. Parce qu'une fois qu'on commence... Excuse-moi, je vais un petit peu plus loin que la question.
Ouais.
Mais une fois qu'on commence à avoir un passing, donc ce qu'on appelle le passing, c'est quand notre apparence extérieure, une personne quelconque qui nous rencontre, va automatiquement nous assigner dans le genre que l'on le souhaite. Donc moi, je suis une personne trans-femme, donc une personne qui me croise dans la rue, qui m'associe automatiquement à une femme, ce qui m'arrive maintenant, eh bien, j'ai pas de souci finalement, parce que quelque part, je fais partie de cette société genrée binaire, même si on aimerait bien qu'elle soit un peu moins binaire. Et par contre, quand on débute une transition, et bah oui, et on va des fois même exagérer justement des traits féminins, avoir des ongles très longs, peut-être plus se maquiller, ce qui peut paraître cliché et stéréotypé, mais on a besoin de ça pour que l'autre en face, en tout cas nous on fait des efforts, donc en se disant peut-être que l'autre il fera des efforts pour nous assigner dans le bon genre. Bon, il se trouve que moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être... en talons, en robe, maquillé, etc., et qu'on me dise « monsieur » parce que j'avais pas suffisamment développé de passing. Bon, bah, la société, elle est ce qu'elle est, il y a beaucoup de boulets, quoi. Hein.
Et pour reprendre, on parle des combats féministes qui essayent de lutter contre le patriarcat, contre les stéréotypes de genre. On en revient au chiffre de tout à l'heure. Les trans représentent 0,09% de la population en France. C'est pas vraiment parce qu'il y a genre quelques personnes trans qui, pour leur bien-être, utilisent ou exploitent un peu ces stéréotypes pour justement se faire voir selon le genre dans la société qu'elles remettent en question, je sais pas, là, on en est à 50 ans, 60 ans de féminisme. Il faut remettre tout en perspective. Les stéréotypes de genre ne sont pas entretenus par les quelques personnes trans qui les utilisent pour un confort de vie. Voilà.
Et puis le combat féministe, il va bien au-delà de la couleur de vernis qu'on met sur nos ongles quand même. C'est un peu réducteur quand c'est limité à ça. Hein.
Ouais. Oui, parce que les féministes, en vrai, le combat, c'est que chacune et chacun puisse porter et être comme elle souhaite. C'est-à-dire si un homme veut mettre du vernis et des paillettes, si une femme veut porter des chaussures basket et faire de la muscu. Enfin voilà, c'est plutôt ça le combat des féministes. Quoi.
Et pour revenir à ta question, Séverine, effectivement, moi, avec ma transition et en acquérant du passing, oui, je me suis fait suivre par des hommes dans la rue, chose qui n'était évidemment jamais arrivée lorsque j'étais homme.
Ouais. Et là, pour le coup, là, tu t'es dit, ah ouais, c'est pas si cool d'être une meuf, putain.
Ah ouais, c'est complexe parce qu'on se prend aussi une claque de réalité sur que, malgré le fait qu'on peut avoir cette conscience, ou peut-être petite conscience, je sais pas, suivant le cadre familial, éducationnel où on a été, de ce que peut être la vie d'une femme, là, on devient une femme. Donc, ouais. Du coup, les soucis d'insécurité, Ouais, on les récupère aussi. Hein. Bon, et puis, attention, spoiler alerte, l'insécurité, c'est plutôt de la part des hommes qu'elle vient. Hein.
Oui, 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 en général, malheureusement. Désolé, messieurs.
Et plutôt hétéro, d'ailleurs, hein, en soi. Hein.
Voilà, évidemment. On ne vous met pas tous dans évidemment. Le même bateau, messieurs, mais malheureusement, c'est ainsi.
Ah non, il y en a plein qui réagissent. C'est bon, c'est pas tous les mecs non plus, quoi.
Oui, mais il y a cette image qu'utilisait par, je sais plus, j'ai oublié son nom, une féministe américaine un peu connue qui prend l'image du bol de bonbons de M&M's et on vous donne un bol de bonbons et on vous dit, tiens, il y en a un, il est empoisonné, amuse-toi. Et donc, il suffit qu'il y en ait un qui soit empoisonné et en fait, on est méfiante à l'égard de tous les autres parce qu'on sait que dans le bol, il y en a un, mais on ne sait pas lequel. Voilà.
Ouais. Peut-être que c'est ce que les hommes pourraient commencer à penser si jamais ils tombaient sur une femme qui a un pénis.
Ouais.
Ah,
ouais.
Okay.
Aïe. Est-ce que potentiellement ils pourraient être confrontés à une situation où ils se retrouveraient peut-être à ce moment-là si le consentement n'est pas respecté victime d'un viol, alors que d'habitude c'est pas comme ça que ça se passe. Mince. Ils sont plutôt bien préparés à ça.
Ouais, voilà.
Ah ouais, mais c'est une belle question, hein.
Ouais, mais complètement.
Ça fait mal au cul, celle-là.
Hein. Oh oui, elle est belle punchline. Elle est envoyée, merci Rebecca. On la garde. Rico, t'en es où tes questions de connard ?
Ah bah j'en ai une pas mal là. Si je me prends pour un oiseau, je sais pas trop ce que j'ai bu
hier. Bah vas-y, la fenêtre est ouverte. Hein.
Je sais plus trop ce que j'ai bu hier, mais bon, ça peut arriver des fois. Quoi. Si je me prends pour un oiseau, mes potes, ils vont m'empêcher de m'envoler par la fenêtre, puis ils vont m'emmener voir un psy. Pourquoi est-ce que ça serait différent si je me prends pour une femme ?
Parce que ça date depuis 2016 ou ça se passe plus comme ça ?
Ouais. Ouais, en effet, ce n'est plus reconnu comme étant une maladie psy, finalement, là-dessus. Et en plus de ça, en fait, là, je parle en tant que co-président d'Ordonnanciel, on a très, très souvent ce genre de questions sur les xénogenres lors des interventions en milieu scolaire qu'on peut faire. Nous, on leur répond d'une manière très simple, en fait. Nous, on parle d'humain. On parle d'humain et des droits humains. Donc après, si tu veux te prendre pour un oiseau, fais ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de... Voilà. Mais nous, on parle d'humain, en fait, là-dessus, et principalement. Et ça n'a pas de rapport avec l'humain qu'on défend sur les droits qu'on a là-dessus. Ou alors, peut-être, va avoir sur les droits des animaux.
Mmh. Fais attention aux chasseurs, aussi.
Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, dans d'autres pays, par contre, c'est toujours considéré comme une maladie psy.
Oui. Mmh. Oui, tout à fait. Léontine, je me rappelle, à la Marche des Fiertés, quand on avait fait notre petite interview le matin, tu nous avais parlé de traitement par électrochoc pour les thérapies de conversion.
Oui, alors les thérapies de conversion, c'est plutôt destiné, si on veut, aux homosexuels, essentiellement les hommes, on va dire. Les personnes trans, je veux dire, dans les pays où déjà l'homosexualité te mène vers des thérapies de conversion ou à la mort, si t'es trans, bon, tu restes dans ton placard, quoi. À un moment, les gens, ils veulent survivre ou tu te suicides, c'est une autre option. Et voilà, donc les thérapies de conversion, je crois pas, peut-être je suis mal renseignée, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des thérapies de conversion pour convaincre une personne trans qu'elle est cis, ça j'ai jamais entendu parler. Voilà.
Enfin, en soi, ça m'avait choqué quand même que en France... Alors attends, tu m'avais dit exactement les dates, à quel moment ça a été interdit ?
Oui, alors en France, les thérapies de conversion ont été interdites l'année dernière. Nati, c'est ça ? L'année dernière ?
Je crois, oui.
Alors qu'il faut savoir qu'en France, on n'utilisait plus les électrochocs depuis un moment. C'était plus du lavage de crâne par des psychiatres ou des psychologues qui pensaient qu'en baratinant les gens et en les mettant dans des situations de détresse mentale totale, on pouvait, les rendre hétéros. Et ben ça ne fonctionne pas. Et donc, le Parlement, l'année dernière, a fini par interdire ça sur l'initiative de je ne sais plus quel groupe parlementaire. Et voilà. Donc, c'est interdit en France. Par contre, ça continue tout à fait d'exister dans plein d'autres pays, y compris les États-Unis, bon, en Russie, enfin, dans d'autres pays charmants. Et oui. Mais ça concerne principalement les hommes homosexuels, on va dire.
C'est quand même effrayant que ce soit interdit que depuis l'année dernière, en fait.
Mais la France n'est pas super en avance sur les droits des personnes LGBT. Hein. Enfin, je veux dire, la France se fait traîne la patte sur à peu près tous les droits. Alors, la France a été pionnière sur un truc, sur le PACS, voilà. C'était un des premiers États en Occident à permettre une sorte d'union après la Hollande, on va dire, entre deux personnes du même sexe. Et puis ensuite, il ne s'est plus rien passé pendant très longtemps. Et tous les pays ont rattrapé tout le monde. Il y a le mariage partout, dans la majorité des États. Pareil, en France, l'homosexualité a été dépénalisée très, très tard. L'homosexualité a été retirée des maladies mentales très, très tard. Alors du coup, les transidentités, pareil. Enfin, la France n'est vraiment pas pionnière sur les droits LGBT. Voilà.
Bah, de toute façon, la France, elle est très fière d'être le pays des droits de l'homme. Pour les autres, on passera, quoi.
de l'homme blanc, on va dire. De l'homme blanc cis-hétéro, la France est toujours pionnière. Après, pour les autres qui ne sont pas hommes blancs cis-hétéro, la France est un petit peu moins pionnière.
Peggy, ça va? On t'entend pas. T'as l'air très attentive. T'es dans ta petite bulle.
Non, mais après, enfin...
Elle va rire, vous allez voir, vous allez kiffer son rire, elle va rire. On va beaucoup aimer.
C'est contagieux.
Non, après, parce que j'ai un peu l'impression d'être le cheveu dans la soupe. Non, bah après, c'est parce que... Alors après, c'est un point de vue, hein. C'est vrai que... Oui, je vais le dire. C'est que c'est des sujets que moi, dans le quotidien, je n'aborde presque pas. Les seules personnes avec qui j'en parle, c'est ma compagne. Donc, du coup, c'est un non, mais du coup, j'écoute, c'est pour ça. C'est pas l'habitude. Pourtant, voilà, mais c'est. Enfin, je sais pas ce que tu dises de plus.
Bah, non, mais je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Ah, moi,
je vais bien.
Voilà, très c'était bien. Très important pour moi. Hein, quand même. T'as d'autres questions de connard, Eric?
Bah, ouais, j'aimerais bien savoir si c'est pas trop indiscret, les gens. Vous faites quoi aux chiottes? Les gens, ils font quoi aux chiottes? Je vous précise un peu, parce que moi, ça me perturbe, quoi. Moi, quand je vais aux chiottes, je vais pisser un coup, là. Ensuite, je me lave les mains, puis je ressors. Et la case d'à côté, il y a un mec, il y a une fille, un homme trans, une femme trans, même le chien du voisin, je m'en fous, quoi. Et il y a des endroits, il y a des revendications pour avoir les chiottes pour hommes, les chiottes pour femmes. Déjà, ça m'interroge depuis longtemps. Et quand, en plus, viennent se rajouter des chiottes pour trans ou des chiottes pour bi ou que sais-je encore, vraiment, mais vous faites quoi dans les chiottes?
Écoute, ça peut s'arranger. Si t'as 10 000 balles, je mets une cam dans mes chiottes. Et puis, à la fin du mois, ça me fera 10 000 balles, quoi.
C'était la vraie question de connard. Là, on était très, très bon dans la question de connard.
Alors, apporter une réponse un peu intelligente à une question de connard. Donc, il y a une revendication de certaines femmes qui disent que c'est important pour elles d'avoir une séparation des toilettes parce que pour elles, les toilettes, si elles se font genre dans un bar ou je sais pas, ou emmerdées par un mec, elles peuvent aller se réfugier dans les toilettes pour femmes et s'y sentir en sécurité, puis je sais pas, envoyer un texto à une pote ou j'en sais rien. Voilà, ça peut être un espèce de lieu de refuge ou je sais pas comment dire. Après, bon, il suffit peut-être d'avoir des toilettes qui ferment à clé et peu importe le connard. Mais bon, bah, c'est vrai que l'argument des toilettes est beaucoup utilisé pour un oui, mais du coup, les femmes trans, elles vont dans les toilettes avec les femmes, c'est pas des vraies femmes, et ça va être des hommes déguisés pour observer les petites filles dans les toilettes. Bon, ça, c'est une espèce de rumeur créée de toutes pièces par...
Chacun ses fantasmes. Hein.
par certaines personnes malveillantes, on va dire. Et c'est faux. Enfin, voilà. Donc, quand on est une femme, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes pour se faire agresser, au contraire. Et que l'espèce de mythe de l'homme pervers qui se déguiserait en femme pour faire du mal aux femmes... En vrai, les hommes n'ont pas besoin de se déguiser en femme pour faire du mal aux femmes. Enfin, il suffit de voir les statistiques, les chiffres, le nombre de femmes. Enfin, je rappelle qu'en France, il y a quand même une femme tous les deux jours qui meurt par violence conjugale de son compagnon ou son mari ou son ex-compagnon. Je crois pas que ces mecs prennent le temps de se déguiser en femme pour tabasser leur compagne ou les viols ou etc. Voilà.
On peut même rajouter que c'est souvent dans le cercle familial, hein, donc tu n'as pas besoin d'aller voir très loin. Hein.
C'est ça. Donc les toilettes, c'est juste quelque chose, un sujet qui est instrumentalisé et qui sert de espèce de cheval de Troie là pour soi-disant pseudo-défendre les femmes. Oh là là, enfin bref, c'est encore du bullshit, quoi.
Et par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous assurer qu'une trans femme, globalement, elle aura pas de mal à viser la cuvette des chocs, contrairement à un mec.
Rico, tu baisses la lunette, toi, quand tu passes ou pas, alors?
Moi, je la relève en général.
Ok, mais tu la remets comme il faut après?
Pas toujours, j'avoue.
Ouais, mais tu vis seul.
Ouais, et puis ça peut être s'il y a des copains et que je sais que c'est un mec qui passe derrière. Et ça peut
C'est par solidarité masculine qui baisse pas la lunette.
Ça. Clairement, ça peut être ça. Et ouais, on va pas se mentir, ça peut être parce que je suis pressé de retrouver ma bière. Hein. Je m'en fous, hein, ça arrive aussi.
Et le pire, c'est que même en visant bien, t'arrives à en foutre à côté quand même avec les projections. Donc, comme quoi.
Il y avait une phrase qui disait là-dessus, genre, non, mais en fait, les mecs, rapprochez-vous, c'est pas aussi long que ce que vous pensez.
Alors, je vais vous avouer un truc, mais du coup, ça me gêne beaucoup, surtout s'il y a d'autres mecs qui m'écoutent, quoi.
C'est pour regarder la tête.
Parce que c'est pas. Okay, je vous avoue, des fois, surtout si, voilà, si c'est propre, machin, c'est des potes, j'ai envie de pas tout saloper, je m'assois, quoi. C'est un peu honteux, mais. Mais ça m'arrive de le faire, j'avoue.
Ah, t'inquiète, t'es enfermé dans une pièce, il n'y a personne qui pourra t'observer.
Sauf s'il y a des caméras.
Sauf s'il y a des caméras. Ou un mec déguisé en fille derrière.
Il a fait un grand pas, il s'assoit sur les toilettes, voilà, il l'a dit à la radio. Merci Rico.
Non, je comprends, c'est hyper castrateur. Hein.
Un peu quand même. Hein.
Ouais, fais gaffe, hein, c'est le premier pas dans une transidentité.
Hein. Ah là là, mon dieu, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu.
Je te conseille de faire une thérapie de conversion très rapidement.
Quelques électrochocs, comme ça tu verras mieux.
Hop là, fini.
Les mets pas sur les couilles comme ça, tu as peur.
Ok. Bon, on rigole, hein, mais en vrai, c'est pas très drôle comme sujet. Comme...
On met un petit peu de légèreté dans ce monde, oui, de brut.
Non, par contre, s'il faut le rappeler quand même, il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité homme-femme, qui ça les fait chier, effectivement, d'arriver devant des toilettes homme ou femme. Et en fait, certaines personnes qui ont du mal à l'assumer ou quoi que ce soit, qui ne préfèrent ne pas y aller. Et là, ça crée des problèmes aussi.
Ok, ces gens-là sont peut-être plus à l'aise dans le TGV. Il y a un chiotte, apparemment, en général. C'est pas homme, pas femme, pour le coup, c'est un exemple.
Eh ben, des toilettes qui ne sont pas genrées, ben, ça fait du bien, ouais.
D'un autre côté, les toilettes, ça peut être un sujet assez vaste, parce qu'on n'a toujours pas compris que, globalement, il fallait plus de superficie et plus de WC pour femmes que de WC pour hommes. Mais ça, dans les salles municipales ou autres, dans les salles de concert... ça, c'est toujours pas compris, hein, par les gens qui s'en occupent. Donc, comme quoi, bon, 21e siècle, ça va, on évolue pas trop vite. Hein.
Ah, non. Mais la semaine dernière, Zénith de Rouen, j'ai été dans les toilettes hommes, tellement la queue pour les toilettes femmes était hyper longue.
Et du coup, tu te sens homme maintenant que t'as été dans les toilettes hommes?
Non, ça va.
T'as agressé combien de mecs, du coup?
Ah, je me suis retenue, hein, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. J'ai failli hésiter vers les urinoirs et tout, je vais y retourner, allez, montrez-moi votre bite. Et non, je me suis retenue, j'ai pris sur moi, c'était dur, mais j'ai pris sur moi.
Bravo.
J'espère que t'as pas volé les petits savons.
Il y a des petits savons dans les toilettes des hommes.
Ouais,
dans les pissotières, tu sais, les petites pastilles.
Non, j'y vais rarement. Je sais pas.
Mais je suis très déçue, j'ai pas vu de bite.
Mince. Ton plan a échoué.
C'est clair. Et
voilà.
Bah voilà, hein. Il n'y a plus de questions de
connard. Dernière question, peut-être un peu plus sérieuse que les chiottes. Quoique les chiottes, c'est pas un petit sujet.
En vrai, les chiottes,
plus,
c'est une vraie question, parce qu'il y a plein de pays où la population est très très pauvre et où il n'y a pas de toilettes. Et en fait, ça, les gens font leurs besoins où ils peuvent, et en fait, ça empoisonne les cours d'eau, etc. Donc en fait, les toilettes, on rigole, mais c'est un vrai sujet hyper sérieux qui sauve des vies. Donc voilà. Non, mais c'est vrai.
C'est important.
Et il y a une journée internationale des toilettes. Hein. Enfin, genre vraiment, je sais plus quel jour c'est, mais c'est pas une blague, c'est important.
Ah.
Nous, on se rend pas compte, on a le luxe, on a des toilettes chez nous, etc. Mais il faut penser qu'il y a des gens qui n'ont pas ce luxe, même pas ce luxe. Donc, ils peuvent même pas se poser la question de dans quelle chiotte ils vont, ils ont juste pas de chiotte.
Faut pas qu'on leur dise qu'on balance de l'eau potable. Hein.
Ah ouais, en plus.
Ah là là, non,
c'est un autre sujet encore.
Promis, si on y pense, on mettra sur les réseaux sociaux de Radio Pulse la date de la journée nationale ou internationale des toilettes, du coup.
Eh ben, on essaiera de vous le rappeler.
C'est pas en tête.
Journée de chiottes, donc.
La journée de chiottes. Ta question sérieuse, Rico, c'était quoi?
Bah voilà, peut-être, on va voir. Donc c'est... des questions qui reviennent beaucoup au sujet des personnes trans dans le milieu du sport et peut-être plus tristement, oui, vas-y.
C'est vrai, parce que c'est une grande question, ça. C'est tellement une grande question que je crois que la Fédération internationale d'échecs a empêché les femmes trans de participer, ou les hommes trans, je sais plus. Enfin, ça n'a plus de sens.
Mais
quoi,
pourquoi les échecs?
Alors qu'en plus, ça fait depuis très longtemps qu'il y a plein de sportifs qui sont bourrés à la testostérone, et là, ça pose pas de problème.
Ah bah ouais.
C'est un milieu super misogyne.
Non, mais on parlerait d'un sport où, en effet, il y a une vraie différence de force physique, de prouver ou je ne sais quoi. Ok, mais des échecs.
Bah, c'est très révélateur de notre monde. Par contre, le beach volley avec des tenues très courtes, ça, il n'y a pas de problème.
En fait, la question qui est soulevée par cette nouvelle question, et on focalise tout sur les trans, parce qu'en fait, ça met en doute et en question nos catégorisations du sport. C'est-à-dire qu'on a créé des catégories hommes-femmes, et en fait, peut-être on pourrait repenser la catégorisation des sports et, par exemple, se rapprocher plus d'un système, par exemple, je sais pas, à la boxe, où on est plus par poids
ou au karaté, il y a des gros, des poids lourds, des poids légers, des poids plumes, enfin je sais pas comment ils s'organisent. Et on pourrait peut-être envisager le sport, sortir le sport de sa binarité, parce qu'en vrai c'est quand même artificiel, il y a quand même des femmes qui sont ultra musclées, qui sont beaucoup plus musclées que certains gars. Voilà, donc...
Mais complètement, ouais. Et c'est effectivement la catégorisation du sport qui pose problème avec cette vision extrêmement binaire, parce que tout simplement, une femme trans a des taux hormonaux de testostérone qui sont plus faibles que certaines sportives de haut niveau qui ont des taux de testostérone qui sont complètement hors normes. Mais c'est normal, c'est des athlètes hors normes, ouais, de toute façon, vu leur capacité physique. Et tant mieux pour elles. L'idée n'est même pas de les concurrencer, l'idée c'est juste que... Enfin, cette question, c'est pareil, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vraiment pour nous faire chier.
Alors justement, tu parles de catégorisation, alors ça m'amène justement à... Quand tu parles justement de débloquer tout ça, ça me fait penser à quelque chose. Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience. J'ai fait 15 ans de natation en handisport. Et du coup, en handisport, on est aussi classé par catégorie de sexe. Mais avant tout, on est catégorisé selon nos capacités physiques et l'atteinte de notre handicap. En fait, du coup, on est vraiment classé par rapport à nos capacités physiques. Ce que tu reviens à dire, Léontine et Rebecca, par rapport justement les capacités physiques de chacun, et comme tu dis,
Oui, c'est-à-dire que statistiquement, si on fait des catégories, j'en sais rien, par capacité physique, on retrouvera, j'imagine, plus d'hommes dans les capacités très très hautes, ou je sais pas comment faut appeler ça, genre les poids très très lourds, ou les mecs, ou les personnes qui sont capables de porter très très lourd, enfin j'en sais rien. Il y aura statistiquement plus d'hommes. Ça veut pas dire qu'il y aura pas une femme qui pourrait rentrer dans ces catégories-là et être un adversaire tout à fait respectable. Et à l'inverse, plus on ira vers les poids plumes, je sais pas comment on fait appeler, ouais. Il y aura sans doute statistiquement plus de femmes, mais ça veut pas dire... Il y a sans doute des hommes qui ont moins de testostérone, parce que biologiquement, ils ont moins de testostérone, et en fait, ils sont handicapés dans le sens où ils peuvent jamais essayer de devenir sportifs, parce que de toute façon, ils sont opposés à des hommes qui ont des taux de testostérone naturellement plus élevés. Enfin, bref, c'est un peu injuste, en fait. Et je pense qu'au lieu de focaliser sur les trans, ils foutent le bordel partout, on pourrait focaliser sur peut-être c'est notre système qui n'est pas bon et peut-être on pourrait le repenser. Voilà.
Mais de fou, mais c'est ce que vous disiez, en fait. C'est juste une toute petite minorité, c'est un cheveu dans l'univers et on en fait tout à foin, là, pour les Jeux Olympiques. C'est...
Parce qu'en fait, cette toute petite minorité met en évidence quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas si bien dans notre système qu'on croyait parfait. Voilà. Et on n'aime pas être confronté à ça en tant qu'humain.
Et encore une fois, même dans le sport, là, justement, en fait, ça vient pas forcément parler des capacités physiques, mais ça vient retoquer la question des stéréotypes de genre et la binarité de genre. Parce que t'es un mec, t'as une masse musculaire bien plus forte. Alors, je suis désolé. Moi, je suis un mec cis. Il y a des meufs qui ont bien plus de masse musculaire que moi. Vraiment, je m'écrase complètement. Et là, je vais pas faire le malin.
C'est d'ailleurs pour ça que cette chère institution là des échecs a déclaré que une femme trans, bien sûr qu'elle allait pas concourir dans la catégorie des femmes, parce que remportant un prix, enfin vous rendez compte quand même, évidemment c'est un homme, hein, donc c'est normal, hein. Bref, merci de la misogynie.
Après, mais ça y est, mais j'ai compris, en fait, c'est juste qu'ils ont compris que le cerveau des hommes était un petit peu plus mou que le cerveau des gonzesses. C'est pour ça.
Ouais, c'est ça. On va lancer un autre débat.
Et ils ont peur.
Tu sais, soulever une pièce d'échec, ce qui est super long.
Ce qui est probablement sûr, c'est qu'effectivement, il y a une partie de classe dirigeante qui a, d'une certaine façon, peur que les choses soient remises sous un ordre différent. Je pense aussi que cette catégorisation du genre, elle est très binaire. Elle est aussi très pratique d'un point de vue commercial pour plein de multinationales. C'est beaucoup plus simple pour les campagnes de pub. Alors que si, vous imaginez, on doit passer notre temps à faire du pinkwashing, c'est pas fini. Hein. Déjà qu'il y en a qui râlent dès qu'ils voient des personnes un peu racisées sur Netflix. Donc vous imaginez des femmes trans, enfin, c'est la fin du monde, quoi. Voilà,
fini.
Ouais.
On a parlé de plein de choses. C'était beau.
On a parlé de plein de choses, j'ai épuisé mon stock de questions de connard, j'ai peut-être pas posé les bonnes questions, peut-être qu'il y a des sujets dont vous auriez eu envie de parler que j'ai pas évoqué, donc je vous propose un dernier tour, qu'avez-vous à nous raconter?
Oh, ça vous souffle pas.
Moi j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression... mais il y a un milliard de sujets dont on n'a pas parlé, dont on pourrait parler, et moi je trouve qu'il faut juste... ne pas suivre bêtement ce qu'on entend dans les médias qui balancent des choses comme ça, êtes-vous pour, êtes-vous contre, votez, je sais pas, certaines émissions en font leur, leur, je sais pas comment on dit,
leur fonds de commerce.
Leur fonds de commerce. Il y a certains médias qui en fait, focaliser l'attention, genre tout le problème du monde, regardez, en fait, on met un coup de projecteur sur une communauté qui n'a rien demandé, qui veut juste survivre déjà, parce qu'on a parlé du taux de suicide, et genre vivre. Donc déjà, il y a un survivre, deux, vivre, et trois, vivre bien. Et en fait, on focalise à balle et on accuse ces personnes de trucs, mais débiles, au lieu de s'occuper en fait des vrais problèmes. Et je pense que si on s'occupe autant des trans, c'est parce que c'est pratique et ça évite de devoir trop se poser des questions sur les vrais problèmes auxquels sont confrontés beaucoup de gens dans nos sociétés aujourd'hui.
Voilà. Comme pouvoir acheter une boîte de cartouches dans un PMU, ouais, peut-être. Ouais.
Voilà, par exemple.
Mais en tout cas, je pense qu'on peut souhaiter pour l'avenir beaucoup d'arc-en-ciel dans le ciel et puis de ne pas avoir un ciel gris, quoi.
Bah, c'est censé se dégager la semaine prochaine.
Parce que ça fait longtemps que c'est gris, là. Il y a un moment donné...
Ouais, pour peu que ça devienne marron, mais souhaitons de l'arc-en-ciel.
Moi, je vis dans le monde des bisounours, et moi, je rêve juste d'un monde où les gens acceptent que tout le monde s'aime, juste, tu vois, et qu'on se fout du reste.
Bah, problème, c'est que les gens qui sont frustrés, ils ont du mal à accepter que les autres soient heureux.
Il faut juste retourner aux faits. Si on observe le nombre de personnes trans qui se font tabasser, assassiner par des personnes cis, il y en a beaucoup, l'inverse n'existe pas. Il n'y a jamais eu un fait divers où une personne hétéro se serait fait tabasser, assassiner par une personne trans parce qu'elle est hétéro. Voilà. Alors, ça peut, je sais pas, arriver dans des cas où tu l'as bien cherché, c'est de la légitime défense ou des trucs comme ça, mais il faut aussi mettre la violence à sa place, et les personnes qui subissent la violence de la société, ce sont les personnes trans de la part des personnes cis, et pas l'inverse. Et il faut bien garder ça en tête et pas se laisser déborder par des trucs sensationnalistes. Voilà. Genre, il y a eu un jour un film sur, soi-disant, il y a des auteurs qui reprennent ça, des personnes influentes, notamment l'écrivain de Harry Potter qui reprend ces trucs-là à son compte. Et ben, une fois, il y a eu un film sur un homme qui se déguise en femme pour assassiner des femmes dans la douche. Ok, voilà, c'est un film d'horreur, c'est un truc imaginé, c'est pas une réalité. Et si on regarde la réalité, c'est les personnes qui meurent, c'est les personnes trans, pas les personnes hétéro. Voilà.
Où on peut reparler du nombre de femmes tuées en France et souvent sous les coups de leurs conjoints. Donc bon.
Voilà. Donc, il faut voir d'où vient le vrai danger et qui est en danger. Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc, surtout les personnes qui sont choquées, perturbées, se sentent agressées en voyant deux personnes du même sexe s'embrasser dans la rue, en voyant une personne trans avec son compagnon ou sa compagne dans la rue. En fait, à aucun moment, ces personnes-là font ça pour vous agresser, vous. Ils ont juste envie de... Voilà, ils s'aiment. À aucun moment, on va embêter Benoît et Martine parce qu'ils s'embrassent et ils se tiennent la main. Et bah, pour Géraldine et Clémentine, c'est pareil, foutez-leur la paix, en fait. Voilà.
Elles n'ont rien demandé.
Elles n'ont rien demandé.
En plus, elles s'en foutent de vous.
Et généralement, en plus, si ça vient te perturber, si ça vient te choquer, c'est que tu as quelque chose à régler avec toi-même aussi derrière. Ouais.
Alors bon, moi, je vous rassure, hein, j'ai envie d'agresser personne. vous risquez rien. Je retiens, si j'ai envie de faire ma tête de connard une dernière fois, que en fait j'ai le droit de m'en foutre. Limite, ça vous arrange si je m'en fous. Alors, effectivement, je dis pas si vous faites agresser sous mes yeux, c'est quand même pas cool. J'aime pas que les gens se fassent agresser devant moi. Mais hormis ce sujet, d'une manière générale, voilà, on a le droit de s'en foutre. Quoi.
Mais en fait, dans un monde parfait, on s'en foutrait tous et il y aurait aucun problème. Sauf qu'en fait, on n'y est pas. Voilà.
Eh ben, essayons de vivre dans un monde parfait. Sur ces belles paroles. Merci à tous les auditeurs de Radio Pulse d'avoir suivi cette émission. Merci à Areco d'avoir posé ces super questions de connard, d'avoir osé le faire, parce que fallait oser. Merci beaucoup à Nati et Léontine. Léontine qui a vraiment une parole très, très intelligente et très... Voilà, elle cadre bien les choses, c'est hyper agréable. Merci à Rebecca et à Peggy d'avoir rejoint le plateau de Radio Pulse pour témoigner. Et on espère avoir participé à une certaine ouverture de conscience. Sur ce, à bientôt.
Ah, c'est quand même bruissant, quand même. On s'entend de nouveau avec la boîte dedans, c'est bien.